Alexandre Dumas, Ange Pitou, tome 1er, chapitre 1er, où le lecteur fera connaissance avec le héros de cette histoire et avec le pays où il a vu le jour, où il est prouvé qu'une tante n'est pas toujours une mère. À la frontière de la Picardie et du Soissonnais, sur cette portion du territoire national qui faisait partie, sous le nom d'Île-de-France, du vieux patrimoine de nos rois, au milieu d'un immense croissant qui forme en s'allongeant au nord et au midi une forêt de 50 000 arpents, s'élève, perdu dans l'ombre d'un immense parc planté par François Ier et Henri II, la petite ville de Villers-Cotterêts, célèbre pour avoir donné naissance à Charles-Albert de Moustier, lequel, à l'époque où commence cette histoire, y écrivait à la satisfaction des jolies femmes du temps qui se les arrachaient au fur et à mesure qu'elles voyaient le jour, ses lettres à Émilie sur la mythologie. Ajoutons, pour compléter la réputation poétique de cette petite ville, à laquelle ses détracteurs s'obstinent, malgré son château royal et ses 2 400 habitants, à donner le nom de bourg, ajoutons, disons-nous, pour compléter sa réputation poétique, qu'elle ne se situe qu'à 2 lieues de La Ferté-Milon, où naquit Racine, et à 8 lieues de Château-Thierry, où naquit La Fontaine. Consignons de plus que la mère de l'auteur de Britannicus et d'Athalie était de Villers-Cotterêts. Revenons à son château royal et à ses 2 400 habitants. Ce château royal, commencé par François Ier, dont il garde les salamandres, et achevé par Henri II, dont il porte le chiffre enlacé à celui de Catherine de Médicis, et encerclé par les 3 croissants de Diane de Poitiers, après avoir abrité les amours du roi chevalier avec Madame d'Étampes et celle de Louis-Philippe d'Orléans avec la belle Madame de Montesson, était à peu près inhabité depuis la mort de ce dernier prince, son fils Philippe d'Orléans, nommé depuis Égalité, l'ayant fait descendre du rang de résidence princière à celui de simple rendez-vous de chasse. On sait que le château et la forêt de Villers-Cotterêts faisaient partie des apanages donnés par Louis XIV à son frère, Monsieur, lorsque le second fils d'Anne d'Autriche épousa la sœur du roi Charles II, Madame Henriette d'Angleterre. Quant aux 2 400 habitants dont nous avons promis à nos lecteurs de dire un mot, c'était, comme dans toutes les localités où se trouvent réunis 2 400 individus, une réunion, premièrement, de quelques nobles qui passaient leur été dans les châteaux environnants et leur hiver à Paris, et qui, pour singer le prince, n'avaient qu'un pied à terre en ville. Deuxièmement, de bon nombre de bourgeois qu'on voyait, quelque temps qu'il fît, sortir de leur maison, un parapluie à la main, pour aller faire après-dîner leur promenade quotidienne, promenade régulièrement bornée à un large fossé séparant le parc de la forêt, situé à 1/4 lieue de la ville, et qu'on appelait sans doute à cause de l'exclamation que sa vue tirait des poitrines asthmatiques, satisfaites d'avoir, sans être trop essoufflées, parcouru un si long chemin, le ha-ha. Troisièmement, d'une majorité d'artisans, travaillant toute la semaine et ne se permettant que le dimanche la promenade, dont leurs compatriotes plus favorisés que par la fortune jouissaient tous les jours. Quatrièmement, et enfin, de quelques misérables prolétaires pour lesquels la semaine n'avait pas même de dimanche et qui, après avoir travaillé 6 jours à la solde soit des nobles, soit des bourgeois, soit même des artisans, se répandaient le 7e dans la futaie pour y glaner le bois mort ou brisé que l'orage, ce moissonneur des forêts pour qui les chênes sont des épis, jetait épars sur le sol sombre et humide des hautes futaies, magnifique apanage du prince. Si Villers-Cotterêts, Villeri ad Cotiam Reciae, avait eu le malheur d'être une ville d'assez d'importance dans l'histoire pour que les archéologues s'en occupassent et suivissent ces passages successifs du village au bourg et du bourg à la ville, ils eussent bien certainement consigné ce fait que ce village avait commencé par être un double rang de maisons bâties des deux côtés de la route de Paris à Soissons. Puis ils eussent ajouté que peu à peu sa situation, à la lisière d'une belle forêt, ayant amené un surcroît d'habitants, d'autres rues se joignirent à la première, divergentes comme les rayons d'une étoile, et tendant vers les autres petits pays avec lesquels il était important de conserver des communications, et convergentes vers un point qui devint tout naturellement le centre, c'est-à-dire ce que l'on appelle en province la place, place autour de laquelle se bâtirent les plus belles maisons du village devenu bourg, et au centre de laquelle s'élève une fontaine, décorée aujourd'hui d'un quadruple cadran. Enfin, ils eussent fixé la date certaine où, près de la modeste église, premier besoin des peuples, pointèrent les premières assises de ce vaste château, dernier caprice d'un roi. Château qui, après avoir été, comme nous l'avons déjà dit, tour à tour résidence royale et résidence princière, est devenu de nos jours un triste et hideux dépôt de mendicité relevant de la préfecture de la Seine. Mais à l'époque où commence cette histoire, les choses royales, quoique déjà bien chancelantes, n'en étaient point encore tombées, cependant, au point où elles sont tombées aujourd'hui. Le château n'était déjà plus habité par un prince, il est vrai, mais il n'était pas encore habité par les mendiants. Il était tout bonnement vide, n'ayant pour tout locataire que les commensaux indispensables à son entretien, parmi lesquels on remarquait le concierge, le pommier et le chapelain. Aussi, toutes les fenêtres de l'immense édifice, donnant les unes sur le parc, les autres sur une seconde place, qu'on appelait aristocratiquement la place du château, étaient-elles fermées, ce qui ajoutait encore à la tristesse et à la solitude de cette place, à l'une des extrémités de laquelle s'élevait une petite maison, dont le lecteur nous permettra, je l'espère, de lui dire quelques mots. C'était une petite maison, dont on ne voyait, pour ainsi dire, que le dos, mais chez certaines personnes, ce dos avait le privilège d'être la partie la plus avantageuse de son individualité. En effet, la façade qui s'ouvrait sur la rue de Soissons, une des principales de la ville, par une porte gauchement cintrée et maussadement close 18 heures sur 24, se présentait gaie et riante du côté opposé. C'est que, du côté opposé, régnait un jardin, au-dessus des murs duquel on voyait pointer la cime des cerisiers, des pommiers et des pruniers, tandis que de chaque côté d'une petite porte donnant sortie sur la place et entrée au jardin, s'élevaient deux acacias séculaires qui, au printemps, semblaient allonger leurs bras au-dessus du mur pour joncher dans toute la circonférence de leur feuillage le sol de leurs fleurs parfumées. Cette maison était celle du chapelain du château, lequel, en même temps qu'il desservait l'église seigneuriale, où, malgré l'absence du maître, on disait la messe tous les dimanches, tenait encore une petite pension à laquelle, par une faveur toute spéciale, étaient attachées deux bourses, l'une pour le collège de Plessis, l'autre pour le séminaire de Soissons. Il va sans dire que c'était la famille d'Orléans qui faisait les frais de ces deux bourses, fondées, celle du séminaire par le fils du régent, celle du collège par le père du prince, et que ces deux bourses étaient l'objet de l'ambition des parents et faisaient le désespoir des élèves pour lesquels elle était une source de compositions extraordinaires, compositions qui avaient lieu les jeudis de chaque semaine. Or, un jeudi du mois de juillet 1789, jour assez maussade, assombri qu'il était par un orage qui courait de l'ouest à l'est, et soulevant duquel les deux magnifiques acacias dont nous avons déjà parlé, perdant déjà la virginité de leur robe printanière, laissaient échapper quelques petites feuilles jaunies par les premières chaleurs de l'été, après un silence assez long, interrompu seulement par le froissement de ses feuilles qui s'entrechoquaient en tournoyant sur le sol battu de la place et par le chant d'un friquet qui poursuivait les mouches rasant la terre, 11 heures sonnèrent au clocher pointu et ardoisé de la ville. Aussitôt, un hurrah, pareil à celui que pousserait un régiment de hulans entier, accompagné d'un retentissement semblable à celui d'une avalanche qui aurait fait entendre en bondissant de rocher et rocher son bruit, retentit. La porte, placée entre les deux acacias, s'ouvrit, ou plutôt s'effondra, et donna passage à un torrent d'enfants qui se répandit sur la place, où presque aussitôt cinq ou six groupes, joyeux et bruyants, se formèrent les uns autour d'un cercle destiné à retenir des toupies prisonnières, les autres devant un jeu de marelles tracé à la craie blanche, les autres enfin en face de plusieurs trous creusés régulièrement et dans lesquels la balle, en s'arrêtant, faisait gagner ou perdre ceux par lesquels la balle avait été poussée. En même temps que les écoliers joueurs, décorés par les voisins dont les rares fenêtres donnaient sur cette place du nom des mauvais sujets, et qui étaient généralement vêtus de culottes trouées aux genoux et de vestes percées aux coudes, s'arrêtaient sur la place, on voyait ceux qu'on appelait les écoliers raisonnables, ceux qui, au dire des commères, devaient faire la joie et l'orgueil de leurs parents, se détacher de la masse, et par diverses routes d'un pas dont la lenteur dénonçait le regret, regagner, leur panier à la main, la maison paternelle, où les attendait la tartine de beurre ou de confiture, destinée à faire compensation aux jeux auxquels ils venaient de renoncer. Ceux-là étaient de leur côté vêtus généralement de vestes en assez bon état et de culottes à peu près irréprochables, ce qui les rendait, avec leur sagesse tant vantée, des objets de dérision ou même de haine pour leurs compagnons moins bien vêtus, mais surtout moins bien disciplinés qu'eux. Outre ces deux classes que nous avons indiquées sous le nom d'écoliers joueurs et d'écoliers raisonnables, il en existait une troisième, que nous désignerons sous le nom d'écoliers paresseux, laquelle ne sortait presque jamais avec les autres, soit pour jouer sur la place du château, soit pour rentrer dans la maison paternelle, attendu que cette classe infortunée demeurait presque constamment en retenue. Ce qui veut dire que, tandis que leurs compagnons, après avoir fait leur version et leur thème, jouaient à la toupie ou mangeaient des tartines, ils restaient cloués à leur banc ou devant leur pupitre pour faire, pendant les récréations, des thèmes et des versions qu'ils n'avaient pas fait pendant la classe, quand toutefois la gravité de leur faute n'ajoutait pas à la retenue la punition suprême du fouet, des férules ou du martinet. Si bien que si l'on eût suivi, pour entrer dans la classe, le chemin que les écoliers venaient de suivre en sens inverse pour en sortir, on eût, après avoir longé une ruelle qui passait prudemment près du jardin fruitier et qui ensuite donnait dans une grande cour servant aux récréations intérieures, on eût, disons-nous, en entrant dans cette cour, pu entendre une voix forte et pesamment accentuée retentir en haut d'un escalier, tandis qu'un écolier, que notre impartialité d'historien nous force à ranger dans la troisième classe, c'est-à-dire dans la classe des paresseux, descendait précipitamment les marches en faisant le mouvement d'épaule que les ânes emploient pour jeter bas leurs cavaliers et les écoliers qui viennent de recevoir un coup de martinet pour secouer la douleur. « Ah, mécréant! Ah, petit excommunié !» disait la voix. « Ah, serpenteau, retire-toi, va-t'en, vadé, vadé! Souviens-toi que j'ai été patient 3 ans, mais qu'il y a des drôles qui lasseraient la patience du Père éternel lui-même. Aujourd'hui, c'est fini, c'est bien fini. Prends tes écureuils, prends tes grenouilles, prends tes lézards, prends tes vers à soie, prends tes hannetons, et va-t'en chez ta tante, va-t'en chez ton oncle. Si tu en as un, au diable, où tu voudras, enfin, pourvu que je ne te revoie pas, vadé, vadé !»« Oh, mon bon monsieur Fortier, pardonnez-moi, répondait dans l'escalier toujours une autre voix suppliante, est-ce donc la peine de vous mettre dans une pareille colère pour un pauvre petit barbarisme et quelque solécisme, comme vous appelez cela ? Trois barbarismes et 7 solécismes dans un thème de 25 lignes, répondit en se renflant encore la voix courroucée. Ah, c'était comme cela aujourd'hui, monsieur l'abbé, j'en conviens, le jeudi est mon jour de malheur à moi, mais si demain, par hasard, mon thème était bon, est-ce que vous ne me pardonneriez pas ma mauvaise chance d'aujourd'hui, dites, monsieur l'abbé. Voilà 3 ans que tous les jours de composition, tu me répètes la même chose, fainéant, et l'examen est fixé au 1er novembre, et moi qui, à la prière de ta tante Angélique, ai eu la faiblesse de te porter comme candidat à la bourse vacante en ce moment au séminaire de Soissons, j'aurai la honte de voir refuser mon élève et d'entendre proclamer partout « Ange Pitou est un âne, Angelus Pitovius asinus est ». Hâtons-nous de dire, afin que tout d'abord le bienveillant lecteur lui porte tout l'intérêt qu'il mérite, qu'Ange Pitou, dont l'abbé Fortier venait de latiniser si pittoresquement le nom, est le héros de cette histoire. « Oh, mon bon monsieur Fortier, oh, mon cher maître !» répondait l'écolier au désespoir. « Moi, ton maître !» s'écria l'abbé, profondément humilié de l'appellation. « Dieu merci, je ne suis pas plus ton maître que tu n'es mon élève. Je te renie, je ne te connais pas, je voudrais ne t'avoir jamais vu. Je te défends de me nommer et même de me saluer. Rétro, malheureux, rétro !» « Monsieur l'abbé, insista le malheureux Pitou, qui paraissait avoir un grave intérêt à ne pas se brouiller avec son maître, monsieur l'abbé, ne me retirez pas votre intérêt, je vous en supplie, votre intérêt pour un pauvre thème estropié. » « Ah !» s'écria l'abbé, poussé hors de lui par cette dernière prière, et descendant les 4 premières marches, tandis que par un mouvement égal, Ange Pitou descendait les 4 dernières et commençait à apparaître dans la cour. « Ah, tu fais de la logique quand tu ne veux pas faire un thème. Tu calcules les forces de ma patience quand tu ne sais pas distinguer le nominatif du régime. » « Monsieur l'abbé, vous avez été si bon envers moi, répliqua le faiseur de barbarisme, que vous n'aurez qu'un mot à dire à monseigneur l'évêque qui nous examine. »«
Ah, malheureux, mentir à ma conscience !»«
Si c'est pour faire une bonne action, monsieur l'abbé, le bon Dieu vous pardonnera. »«
Jamais, jamais !»«
Et puis, qui sait, les examinateurs ne seront pas... plus sévère envers moi qu'ils ne l'ont été en faveur de Sébastien Gilbert, mon frère de lait, quand l'année passée il a concouru pour la Bourse de Paris. C'en était cependant un faiseur de barbarisme, celui-là, Dieu merci, quoiqu'il n'avait que 13 ans, et que moi j'en avais 17.
« Par exemple, voilà qui est stupide !» dit l'abbé, en descendant le reste des marches de l'escalier et en apparaissant à son tour son martinet à la main,
tandis que Pitou maintenait prudemment entre lui et son professeur la distance première.
« Oui, je dis stupide » ajouta-t-il en se croisant les bras et en regardant avec indignation son écolier.
« Voilà donc le prix de mes leçons de dialectique, triple animal, et c'est ainsi que tu te souviens de cet axiome « Noti minora loqui majora volens ».
Mais c'est justement parce que Gilbert était plus jeune que toi qu'on a été plus indulgent envers un enfant de 14 ans qu'on ne le sera envers un grand imbécile de 18 ans.
Oui, et aussi parce qu'il est le fils de monsieur Honoré Gilbert, qui a 18 000 livres de rente en bonne terre, rien que sur la peine de Pileleu, répondit piteusement le logicien. L'abbé Fortier regarda Pitou en allongeant les lèvres et en fronçant le sourcil.
« Ceci est moins bête, » grommela-t-il après un moment de silence et d'inspection.
« Cependant, ceci n'est que spécieux et non fondé. Species non autem corpus.
Ah, si j'étais le fils d'un homme ayant 10 000 livres de rente, » répéta Pitou, qui avait cru s'apercevoir que sa réponse avait fait quelque impression sur son professeur.
« Oui, mais tu ne l'es pas. En revanche, tu es ignare, comme le drôle dont parle Juvénal. » Citation profane, l'abbé se signa, mais non moins juste. « Arcadius Juvenis, je parie que tu ne sais même pas ce que veut dire Arcadius. »«
Parbleu, arcadien !»
répondit Ange Pitou en se redressant avec la majesté de l'orgueil.
« Et puis après ?»«
Après quoi ?» L'Arcadie était le pays des Roussins, et chez les anciens, comme chez nous, Asinus était le synonyme de Stultus.
Je n'ai pas voulu comprendre la chose ainsi, dit Pitou, attendu qu'il était loin de ma pensée que l'austère esprit de mon digne professeur fût abaissé jusqu'à la satire. L'abbé Fortier le regarda une seconde fois avec une attention non moins profonde que la première. « Sur ma parole, murmura-t-il un peu radouci par le coup d'encensoir de son disciple, il y a des moments où l'on jurerait que le drôle est moins sot qu'il n'en a l'air. « Allons, monsieur l'abbé, dit Pitou, qui avait, sinon entendu les paroles du professeur, du moins surpris sur sa physionomie, l'expression du retour à la miséricorde, pardonnez-moi, vous verrez quel beau thème je ferai demain. » « Eh bien, j'y consens, dit l'abbé en passant en signe de trêve son martinet sous sa ceinture et en s'approchant de Pitou qui, moyennant cette démonstration pacifique, consentit à rester en place. « Oh, merci, merci !» s'écria l'écolier. « Attends donc et ne me remercie pas si vite. Oui, je te pardonne, mais à une condition !» Pitou baissa la tête comme il était à la discrétion du digne abbé et il attendit avec résignation. « C'est que tu feras sans faute réponse à une question que je te ferai. »« En latin ?» demanda Pitou avec inquiétude. « Latiné !» répondit le professeur. Pitou poussa un profond soupir. Puis il y eut un moment d'intervalle pendant lequel les cris joyeux des écoliers qui jouaient sur la place du château parvinrent jusqu'aux oreilles d'Ange Pitou. Il poussa un second soupir, plus profond que le premier. « Quitte virtus, quitte religio ?» demanda l'abbé. Ces mots, prononcés avec l'aplomb d'un pédagogue, retentirent aux oreilles du pauvre Pitou, comme la fanfare de l'ange du jugement dernier. Un nuage passa sur ses yeux, et un tel effort se fit dans son intellect qu'il comprit un instant la possibilité de devenir fou. Cependant, en vertu de ce travail cérébral qui, si violent qu'il était, n'amenait aucun résultat, la réponse demandée se faisait indéfiniment attendre. On entendit alors le bruit prolongé d'une prise de tabac que humait lentement le terrible interrogateur. Pitou vit bien qu'il fallait en finir. « Nescio, dit-il, espérant qu'il se ferait pardonner son ignorance en avouant cette ignorance en latin. « Tu ne sais pas ce que c'est que la vertu ?» s'écria l'abbé, suffoquant de colère. « Et tu ne sais pas ce que c'est que la religion ?»« Je le sais bien en français, répliqua l'ange, mais je ne le sais pas en latin. » « Alors, va-t'en en Arcadie, Juvenis, tout est fini entre nous, cancre !» Pitou était si accablé qu'il ne fit pas un pas pour fuir, quoique l'abbé Fortier eût tiré son martinet de sa ceinture avec autant de dignité qu'au moment du combat, un général d'armée eût tiré son épée du fourreau. « Mais que deviendrai-je ? » demanda le pauvre enfant en laissant pendre à ses côtés ses deux bras inertes. « Que deviendrai-je si je perds l'espoir d'entrer au séminaire ?»« Deviens ce que tu pourras, cela m'est par Dieu bien égal !» Le bon abbé était si courroucé qu'il jurait presque. « Vous ne savez donc pas que ma tante me croit déjà abbé ? Eh bien, elle saura que tu n'es même pas bon à faire un sacristain !» Monsieur Fortier, je te dis de partir, limina linguae. Allons, dit Pitou, comme un homme qui prend une résolution douloureuse, mais enfin qui la prend. Voulez-vous me laisser prendre mon pupitre? Demanda Pitou, espérant que, pendant ce moment de répit qui leur était donné, le cœur de l'abbé Fortier reviendrait à des sentiments plus miséricordieux. « Je le crois bien, dit celui-ci, ton pupitre est tout ce qu'il renferme !» Pitou remonta piteusement l'escalier, car la classe était au premier. Il entra dans la chambre où, réunis autour d'une grande table, faisait semblant de travailler une quarantaine d'écoliers, souleva avec précaution la couverture de son pupitre pour voir si tous les hôtes qu'il contenait étaient bien au complet, et l'enlevant avec un soin qui prouvait toute sa sollicitude pour ses élèves, il reprit d'un pas lent et mesuré le chemin du corridor. En haut de l'escalier était l'abbé Fortier, le bras tendu, montrant l'escalier du bout de son martinet. Il fallait passer sous les fourches caudines. Ange Pitou se fit aussi humble et aussi petit qu'il se put faire, ce qui n'empêcha point qu'il ne reçût au passage une dernière sanglée de l'instrument auquel l'abbé Fortier avait dû ses meilleurs élèves et dont l'emploi, quoique plus fréquent et plus prolongé sur Ange Pitou que sur aucun autre, avait eu, comme on le voit, un si médiocre résultat. Tandis qu'Ange Pitou, en essuyant une dernière larme, s'achemine, son pupitre sur la tête, vers le Pleu, quartier de la ville où demeure sa tante, disons quelques mots de son physique et de ses antécédents. Louis-Ange Pitou, comme il l'avait dit lui-même dans son dialogue avec l'abbé Fortier, avait à l'époque où s'ouvre cette histoire 17 ans et demi. C'était un long et mince garçon, aux cheveux jaunes, aux joues rouges, aux yeux bleu faïence. La fleur de la jeunesse fraîche et innocente s'élargissait sur sa large bouche, dont les grosses lèvres découvraient en se fendant outre mesure deux rangées parfaitement complètes de dents formidables pour ceux dont elle était destinée à partager le dîner. Au bout de ses longs bras osseux pendaient, solidement attachées, des mains larges comme des battoirs, des jambes passablement arquées, des genoux gros comme des têtes d'enfant qui faisaient éclater son étroite culotte noire, des pieds immenses et cependant à l'aise dans des souliers de veau rougis par l'usage. Tel était, avec une espèce de souquenille de serge brune tenant le milieu entre la vareuse et la blouse, le signalement exact et impartial de l'ex-disciple de l'abbé Fortier. Il nous reste à esquisser le moral. Ange Pitou était resté orphelin à l'âge de 12 ans, époque à laquelle il avait eu le malheur de perdre sa mère, dont il était le fils unique. Cela veut dire que depuis la mort de son père, qui avait eu lieu avant qu'il n'atteignît l'âge de connaissance, Ange Pitou, adoré de la pauvre femme, avait à peu près fait ce qu'il aurait voulu, ce qui avait fort développé son éducation physique, mais tout à fait laissé en arrière son éducation morale. Né dans un charmant village nommé Aramon, situé à une lieue de la ville au milieu des bois, ses premières courses avaient été pour explorer la forêt natale, et la première explication de son intelligence de faire la guerre aux animaux qu'il habitait. Il résulta de cette application dirigée vers un seul but qu'à 10 ans, Ange Pitou était un braconnier fort distingué et un oiseleur de premier ordre, et cela presque sans travail et surtout sans leçon, par la seule force de cet instinct donné par la nature à l'homme né au milieu des bois et qui semble une portion de celui qu'elle a donné aux animaux. Aussi, pas une passée de lièvre ou de lapin ne lui était inconnue. À 3 lieues à la ronde, pas une marette n'avait échappé à son investigation, et surtout on trouvait les traces de sa serpe sur les arbres propres à la pipée. Il résultait de ces différents exercices, sans cesse répétés, que Pitou était devenu, à quelques-uns d'entre eux, d'une force extraordinaire. Grâce à ses longs bras et à ses gros genoux qui lui permettaient d'embrasser les baliveaux les plus respectables, il montait aux arbres pour dénicher les nids les plus élevés avec une agilité et une certitude qui lui attiraient l'admiration de ses compagnons et qui, sous une latitude plus rapprochée de l'équateur, lui eût valu l'estime des singes. Dans cette chasse de la pipée, chasse si attrayante même pour les grandes personnes, où le chasseur attire les oiseaux sur un arbre garni de gluaux en imitant le cri du jais ou de la chouette, individus qui jouissent chez la gent emplumée de la haine générale de l'espèce, si bien que chaque pinson, chaque mésange, chaque tarin, accourt dans l'espoir d'arracher une plume à son ennemi, et pour la plupart du temps, y laisser les siennes. Les compagnons de Pitou se servaient soit d'une véritable chouette, soit d'un jet naturel, soit enfin d'une herbe particulière à l'aide de laquelle ils parvenaient tant bien que mal à simuler le cri de l'un ou de l'autre de ces animaux. Mais Pitou négligeait toutes ces préparations, méprisait tous ces subterfuges. C'était avec ses propres ressources qu'il combattait, c'était avec ses moyens naturels qu'il tendait le piège. C'était enfin sa bouche seule qui modulait les sons criards et détestés qui appelaient non seulement les autres oiseaux, mais encore ceux de la même espèce qui se laissaient tromper, nous ne dirons pas à ce chant, mais à ce cri, tant il était parfaitement imité. Quant à la chasse à la marelle, c'était pour Pitou le pont aux ânes, et il l'eût certes méprisé comme objet d'art si elle eût été moins productive comme objet de rapport. Cela n'empêchait pas, malgré le mépris qu'il faisait lui-même de cette chasse si facile, que pas un des plus experts ne savait, comme Pitou, couvrir de fougères une mare trop grande pour être complètement tendue, c'était le mot technique. Que nul ne savait, comme Pitou, donner l'inclinaison convenable à ses gluaux, de manière que les oiseaux les plus rusés ne puissent boire ni par-dessus ni par-dessous. Enfin, que nul n'avait cette sûreté de main et cette justesse de coup d'œil qui doivent présider au mélange en portions inégales et savantes de la poirésine, de l'huile et de la glu, pour faire que cette glu ne devienne ni trop fluide ni trop cassante. Or, comme l'estime qu'on fait des qualités des hommes change selon le théâtre où elles produisent ces qualités et selon les spectateurs devant lesquels elles se produisent, Pitou, dans son village d'Aramon, au milieu de ses paysans, c'est-à-dire d'hommes habitués à demander au moins la moitié de leurs ressources à la nature, et comme tous les paysans ayant une haine instinctive de la civilisation, Pitou, disons-nous, jouissait d'une considération qui ne permettait pas à sa pauvre mère de supposer qu'il marchât dans une fausse voie et que l'éducation la plus parfaite qu'on pût donner à grands frais à un homme ne fût point celle que son fils, privilégié sous ce rapport, se donnait gratis à lui-même. Mais quand la bonne femme tomba malade, quand elle sentit la mort venir, quand elle comprit qu'elle allait laisser son enfant seul et isolé dans le monde, elle se prit à douter, et elle chercha un appui au futur orphelin. Elle se souvint alors que 10 ans auparavant, un jeune homme était venu frapper à sa porte au milieu de la nuit, lui apportant un enfant nouveau-né, pour lequel il lui avait non seulement laissé comptant une somme assez ronde, mais encore pour lequel une autre somme plus ronde encore avait été déposée chez un notaire de Villers-Cotterêts. De ce jeune homme mystérieux, d'abord elle n'avait rien su, sinon qu'il s'appelait Gilbert. Mais il y avait 3 ans à peu près, elle l'avait vu reparaître. C'était alors un homme de 27 ans, à la tournure un peu raide, à la parole dogmatique, à l'abord un peu froid. Mais cette première couche de glace s'était fondue quand il avait revu son enfant, et comme il l'avait trouvé beau, fort et souriant, élevé, comme il l'avait demandé lui-même, en tête à tête avec la nature, il avait serré la main de la bonne femme et lui avait dit ses seules paroles « Dans le besoin, comptez sur moi ». Puis il avait pris l'enfant, s'était informé du chemin d'Ermenonville, avait fait avec son fils un pèlerinage au tombeau de Rousseau et était revenu à Villers-Cotterêts. Là, séduit sans doute par l'air sain qu'on y respirait, par le bien que le notaire lui avait dit de la pension de l'abbé Fortier, il avait laissé le petit Gilbert chez le digne homme, dont au premier abord il avait apprécié l'aspect philosophique. Car à cette époque, la philosophie avait une si grande puissance qu'elle s'était glissée même chez les hommes d'église. Après quoi, il était reparti pour Paris, laissant son adresse à l'abbé Fortier. La mère de Pitou connaissait tous ces détails. Au moment de mourir, ces mots, dans le besoin, comptez sur moi, lui revinrent à l'esprit. Ce fut une illumination. Sans doute, la Providence avait conduit tout cela pour que le pauvre Pitou retrouvât plus qu'il ne perdait peut-être. Elle fit venir le curé, ne sachant pas écrire. Le curé écrivit, et le même jour, la lettre fut portée à l'abbé Fortier, qui s'empressa d'y ajouter l'adresse et de la mettre à la poste. Il était temps. Le surlendemain, elle mourut. Pitou était trop jeune pour sentir toute l'étendue de la perte qu'il venait de faire. Il pleura sa mère, non pas qu'il comprît la séparation éternelle de la tombe, mais parce qu'il voyait sa mère froide, pâle, défigurée. Et puis, il devinait instinctivement, le pauvre enfant, que l'ange gardien du foyer venait de s'envoler, que la maison, veuve de sa mère, devenait déserte et inhabitable. Il ne comprenait plus non seulement son existence future, mais encore sa vie du lendemain. Aussi, quand il eut conduit sa mère au cimetière, quand la terre eut retenti sur le cercueil, quand elle se fut arrondie, formant cette éminence fraîche et friable, il s'assit sur la fosse, et à toutes les invitations qu'on lui fit de sortir du cimetière, il répondit en secouant la tête et en disant qu'il n'avait jamais quitté sa mère Madeleine et qu'il voulait rester où elle restait. Il demeura tout le reste de la journée et toute la nuit sur la fosse. Ce fut là que le digne docteur, avons-nous dit que le futur protecteur de Pitou était médecin, ce fut là que le digne docteur le trouva, lorsque, comprenant toute l'étendue du devoir qu'il s'était imposé par la promesse qu'il avait faite, arriva lui-même pour la remplir 48 heures à peine après le départ de la lettre. Ange était bien jeune quand il avait vu le docteur pour la première fois, mais, on le sait, la jeunesse a de profondes impressions qui laissent des réminiscences éternelles. Puis le passage du mystérieux jeune homme avait imprimé sa trace dans la maison. Il y avait laissé ce jeune enfant que nous avons dit, et avec lui le bien-être. Toutes les fois qu'Ange avait entendu prononcer le nom de Gilbert par sa mère, c'était avec un sentiment qui ressemblait à l'adoration. Puis enfin, lorsqu'il avait reparu dans la maison, homme fait, et avec ce nouveau titre de docteur, lorsqu'il avait joint au bienfait du passé la promesse de l'avenir, Pitou avait jugé, à la reconnaissance de sa mère, qu'il devait être reconnaissant lui-même, et le pauvre garçon, sans trop savoir ce qu'il disait, avait balbutié les mots de souvenir éternel, de grâce profonde, qu'il avait entendu dire à sa mère. Donc, aussitôt qu'il aperçut le docteur à travers la porte à claire-voie du cimetière, dès qu'il le vit s'avancer au milieu des tombes gazonneuses et des croix brisées, il le reconnut, se leva et alla au-devant de lui, car il comprit qu'à celui-là qui venait à l'appel de sa mère, il ne pouvait dire non comme aux autres. Il ne fit donc d'autre résistance que de retourner la tête en arrière quand Gilbert le prit par la main et l'entraîna, pleurant, hors de l'enceinte mortuaire. Un cabriolet élégant était à la porte. Il y fit monter le pauvre enfant, et laissant momentanément la maison sous la sauvegarde de la bonne foi publique et de l'intérêt que le malheur inspire, il conduisit son petit protégé à la ville et descendit avec lui à la meilleure auberge qui, à cette époque, était celle du Dauphin. À peine y était-il installé qu'il envoya chercher un tailleur, lequel, prévenu à l'avance, arriva avec des habits tout faits. Il choisit précautionnellement à Pitou des habits trop longs de 2 ou 3 pouces, superfluité qui, à la façon dont poussait notre héros, promettait de ne pas être de longue durée, et s'achemina avec lui vers ce quartier de la ville que nous avons déjà indiqué et qui se nommait le Pleu. À mesure qu'il s'avançait vers ce quartier, Pitou ralentissait le pas, car il était évident qu'on le conduisait chez sa tante Angélique, et malgré le peu de fois que le pauvre orphelin avait vu sa marraine, car c'était la tante Angélique qui avait doué Pitou de son poétique nom de baptême, il avait conservé de cette respectable parente un formidable souvenir. En effet, la tante Angélique n'avait rien de bien attrayant pour un enfant habitué, comme Pitou, à tous les soins de la sollicitude maternelle. La tante Angélique était à cette époque une vieille fille de 55 à 58 ans, abrutie par l'abus des plus minutieuses pratiques de la religion, et chez laquelle une piété malentendue avait resserré à contresens tous les sentiments doux, miséricordieux et humains, pour cultiver en leur place une dose naturelle d'intelligence avide qui ne faisait que s'augmenter chaque jour dans le commerce assidu des béguines de la ville. Elle ne vivait pas précisément d'aumône, mais outre la vente du lin qu'elle filait aux rouées et la location des chaises de l'église qui lui avaient été accordées par le chapitre, elle recevait de temps en temps des âmes pieuses qui se laissait prendre à ses simagrées de religion de petites sommes que, de monnaie de billon, elle convertissait d'abord en monnaie blanche et de monnaie blanche en louis, lesquels disparaissaient, non seulement sans que personne les vît disparaître, mais encore sans que nul soupçonnât leur existence et allait s'enfouir un à un dans les coussins du fauteuil sur lequel elle travaillait, et une fois dans cette cachette, il retrouvait à tâtons une certaine quantité de leurs confrères, recueillis un à un comme eux et comme eux destinés à être désormais séquestrés de la circulation jusqu'au jour inconnu où la mort de la vieille fille les mettrait aux mains de son héritier. C'était donc vers la demeure de cette vénérable parente que s'acheminait le docteur Gilbert, traînant par la main le grand Pitou. Nous disons le grand Pitou, parce qu'à partir du premier trimestre après sa naissance, Pitou avait toujours été trop grand pour son âge. Mademoiselle Rose Angélique Pitou, au moment où sa porte s'ouvrait pour donner passage à son neveu et au docteur, était dans un accès d'humeur joyeuse. Tandis que l'on chantait la messe des morts sur le corps de sa belle-sœur dans l'église d'Aramon, il y avait eu noces et baptême dans l'église de Villers-Cotterêts, de sorte que la recette des chaises avait, dans une seule journée, monté à 6 livres. Mademoiselle Angélique avait donc converti ses sous en un gros écu, lequel à son tour, joint aux autres mis en réserve à des époques différentes, avait donné un louis d'or. Ce louis d'or venait justement d'aller rejoindre les autres louis, et le jour où avait lieu une pareille réunion était tout naturellement un jour de fête pour Mademoiselle Angélique. Ce fut juste au moment où, après avoir rouvert sa porte fermée pendant l'opération, la tante Angélique venait de faire une dernière fois le tour de son fauteuil pour s'assurer que rien au dehors ne décelait le trésor caché au-dedans, que le docteur et Pitou entrèrent. La scène aurait pu être attendrissante, mais aux yeux d'un homme aussi juste observateur que l'était le docteur Gilbert, elle ne fut que grotesque. En apercevant son neveu, la vieille béguine dit quelques mots de sa pauvre chère sœur qu'elle aimait tant et eut l'air d'essuyer une larme. De son côté, le docteur, qui voulait voir au plus profond du cœur de la vieille fille avant de prendre un parti à son égard, le docteur eut l'air de faire à Mademoiselle Angélique un sermon sur le devoir des tantes envers les neveux. Mais à mesure que le discours se développait, que les paroles onctueuses tombaient des lèvres du docteur, l'œil aride de la vieille femme buvait l'imperceptible larme qu'il avait mouillée, tous ses traits reprenaient la sécheresse du parchemin dont il semblait recouvert. Elle leva la main gauche à la hauteur de son menton pointu, et de la main droite, elle se mit à calculer sur ses doigts secs le nombre approximatif de sous que l'allocation des chaises lui rapportait par année, de sorte que, le hasard ayant fait que le calcul se trouva terminé en même temps que le discours, elle put répondre à l'instant même que, quel que fût l'amour qu'elle portait à sa pauvre sœur et le degré d'intérêt qu'elle ressentit pour son cher neveu, la médiocrité de ses recettes ne lui permettait, malgré son double titre de tante et de marraine, aucun surcroît de dépenses. Au reste, le docteur s'était attendu à ce refus. Ce refus ne le surprit donc pas. C'était un grand partisan des idées nouvelles, et comme le premier volume de l'ouvrage de Lavater venait de paraître, il avait déjà fait l'application de la doctrine physiognomique du philosophe de Zurich aux minces et jaunes faciès de Mademoiselle Angélique. Cet examen lui avait donné pour résultat que les petits yeux ardents de la vieille fille, son nez long et ses lèvres minces présentaient la réunion en une seule personne de la cupidité, de l'égoïsme et de l'hypocrisie. La réponse, comme nous l'avons dit, ne lui causa aucune espèce d'étonnement. Cependant, il voulut voir, en sa qualité d'observateur, jusqu'à quel point la dévote pousserait le développement de ses trois vilains défauts. « Mais, dit-il, mademoiselle, Ange Pitou est un pauvre enfant orphelin, le fils de votre frère. »« Ah, dame, écoutez, monsieur Gilbert, dit la vieille fille, c'est une augmentation de 6 sous par jour au moins et encore au bas prix, car ce drôle-là doit manger au moins 1 livre de pain par jour. » Pitou fit la grimace, il mangeait d'habitude 1,5 livre rien qu'à son déjeuner. Ah, sans compter le savon pour son blanchissage, reprit Mademoiselle Angélique. Je me souviens qu'il salit horriblement. En effet, Pitou salissait beaucoup. C'est concevable si l'on veut bien se rappeler la vie qu'il menait. Mais il faut lui rendre cette justice, il déchirait encore plus qu'il ne salissait. Ah, dit le docteur, fille, Mademoiselle Angélique, vous qui pratiquez si bien la charité chrétienne, faire de pareils calculs à l'endroit d'un neveu et d'un filleul. Ah, sans compter l'entretien des habits, s'écria avec explosion la vieille dévote, qui se rappelait avoir vu sa sœur Madeleine coudre bon nombre de parements aux vestes et de grenouillères aux culottes de son neveu. Ainsi, fit le docteur, vous refusez de prendre votre neveu chez vous. L'orphelin, repoussé du seuil de sa tente, sera forcé d'aller demander l'aumône au seuil des maisons étrangères. Et Mademoiselle Angélique, toute cupide qu'elle l'était, sentit l'odieux qui rejaillirait naturellement sur elle si, par son refus de le recevoir, son neveu était forcé de recourir à une pareille extrémité. Non, dit-elle, je m'en charge. Ah, fit le docteur, heureux de trouver un bon sentiment dans ce cœur qu'il croyait desséché. Oui, continua la vieille fille, je le recommanderai aux Augustins de Bourgfontaine. Il entrera chez eux comme frère servant. Le docteur, nous l'avons déjà dit, était philosophe. On sait la valeur du mot philosophe à cette époque. Il résolut donc, à l'instant même, d'arracher un néophyte aux Augustins, et cela avec tout le zèle que les Augustins eussent de leur côté pu mettre à enlever un adepte au philosophe. Eh bien, reprit-il en portant la main à sa poche profonde, puisque vous êtes dans une position si difficile, ma chère mademoiselle Angélique, que vous soyez obligée, faute de ressources personnelles, de recommander votre neveu à la charité d'autrui, je chercherai quelqu'un qui puisse plus efficacement que vous appliquer à l'entretien du pauvre orphelin la somme que je lui destinais. Il faut que je retourne en Amérique. Je mettrai avant mon départ votre neveu Pitou en apprentissage chez quelque menuisier ou quelque charron. Lui-même, d'ailleurs, choisira sa vocation. Pendant mon absence, il grandira et, à mon retour, eh bien, il sera déjà savant dans le métier et je verrai ce que l'on peut faire pour lui. Allons, mon pauvre enfant, embrasse ta tante, continua le docteur, et allons-nous-en. Le docteur n'avait point achevé que Pitou se précipitait sur la vénérable demoiselle, ses deux longs bras étendus. Il était fort pressé, en effet, d'embrasser sa tante à la condition que le baiser serait entre elle et lui le signal d'une séparation éternelle. Mais à ce mot, la somme, au geste du docteur introduisant sa main dans sa poche et au son argentin que cette main avait incontinent fait rendre à une masse de gros écus dont on pouvait calculer la quotité à la tension de l'habit, la vieille fille avait senti remonter jusqu'à son cœur la chaleur de la cupidité. Ah, dit-elle, mon cher monsieur Gilbert, vous savez bien une chose. Laquelle? Demanda le docteur. Eh, bon Dieu, c'est que personne au monde ne l'aimera autant que moi, ce cher enfant. Et, entrelaçant ses bras maigres aux bras étendus de Pitou, elle déposa sur chacune de ses joues un aigre baiser qui fit frissonner celui-ci de la pointe des pieds à la racine des cheveux. Oh, certainement, dit le docteur, je sais bien cela, et je doutais si peu de votre amitié pour lui que je vous l'amenais directement comme à un soutien naturel. Mais ce que vous venez de me dire, chère demoiselle, m'a convaincu à la fois de votre bonne volonté et de votre impuissance, et vous êtes trop pauvre pour vous-même, je le vois bien, pour aider plus pauvre que vous. Eh, mon bon monsieur Gilbert, dit la vieille dévote, le bon Dieu n'est-il pas au ciel, et du ciel ne nourrit-il pas toutes ses créatures? C'est vrai, dit Gilbert, mais s'il donne la pâture aux oiseaux, il ne met pas les orphelins en apprentissage. Or, voilà ce qu'il faut faire pour Ange Pitou, et ce qui, vu vos faibles moyens, vous coûtera trop cher, sans doute. Cependant, si vous donnez cette somme, monsieur le docteur, quelle somme? Mais la somme dont vous avez parlé, la somme qui est là dans votre poche, ajouta la dévote en allongeant son doigt vers la basque de l'habit marron. J'adonnerai assurément, chère demoiselle Angélique, dit le docteur, mais je vous préviens que ce sera à une condition.
Laquelle?
Celle que l'enfant aura un état.
Oh, il y en aura un, je vous le promets, foi d'Angélique Pitou,
monsieur le docteur, dit la dévote, les yeux rivés sur la poche dont elle suivait le balancement.
Vous le promettez?
Je vous le promets.
Sérieusement, n'est-ce pas?
En vérité de bon Dieu, mon cher monsieur Gilbert, j'en fais le serment.
Et demoiselle Angélique étendit horizontalement sa main décharnée.
Eh bien, soit, dit le docteur en tirant de sa poche un sac à la panse tout à fait rebondi, je suis prêt à donner l'argent, comme vous voyez. De votre côté, êtes-vous prête à me répondre de l'enfant?
Sur la vieille croix, monsieur Gilbert.
Ne jouerons pas tant, chère demoiselle, et signons un peu plus.
Je signerai, monsieur Gilbert, je signerai.
Devant notaire?
Devant notaire.
Allons, allons chez le papa Niguet. Le papa Niguet, auquel, grâce à une longue connaissance, le docteur donnait ce titre amical, était, comme le savent déjà ceux de nos lecteurs qui sont familiers avec notre livre de Joseph Balsamo, le notaire le plus en réputation de l'endroit. Mademoiselle Angélique, dont maître Niguet était aussi le notaire, n'eut rien à dire contre le choix fait par le docteur. Elle le suivit donc dans l'étude annoncée. Là, le tabellion enregistra la promesse faite par la demoiselle Rose Angélique Pitou de prendre à sa charge et de faire arriver à l'exercice d'une profession honorable Louis-Ange Pitou, son neveu, moyennant quoi elle toucherait annuellement la somme de 200 livres. Le marché était passé pour 5 ans. Le docteur déposa 800 livres chez le notaire, 200 livres devant être payées d'avance. Le lendemain, le docteur quitta Villers-Cotterêts après avoir réglé quelques comptes avec un de ses fermiers sur lequel nous reviendrons plus tard. Et mademoiselle Pitou, fondant comme un vautour sur les susdites 200 livres payables d'avance, enfermait 8 beaux louis d'or dans son fauteuil. Quant aux 8 livres restants, elles attendirent dans une petite soucoupe de faïence qui avait depuis 30 ou 40 ans vu passer des nuées de monnaie de bien des espèces que la récolte de 2 ou 3 dimanches compléta la somme de 24 livres, chiffre auquel, ainsi que nous l'avons expliqué, la susdite somme subissait la métamorphose dorée et passait de l'assiette dans le fauteuil.